Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour à toutes et à tous. L'Angleterre et l'Afrique au cœur de Radio Foot aujourd'hui. C'est l'Afrique qui nous appelle d'abord avec cette nouvelle toute fraîche du jour. Marc Wilmots est le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Un diable rouge donc à la tête des éléphants. Dans un instant, nous faisons un tour de table pour les premiers commentaires avec nos consultants du jour que je vais saluer tout de suite. Franck Simon de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Salim Bongali de SFR Sport. Bonjour Salim.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Et Philippe Doucet, revenu d'Éthiopie. Bonjour Philippe.
Bonjour Christophe. Madame Annie est toujours là-bas ?
Annie est toujours en Abyssinie, mais elle revient lundi.
Parfait.
C'est promis. L'Afrique au sommaire aussi avec le Mali. Le football malien a connu pas mal de crises, mais celle qui est en cours est particulièrement sévère. Dissolution de la fédération par le ministre des Sports. La FIFA constate l'ingérence et suspend le Mali de toute compétition internationale. À Bamako, c'est un comité provisoire qui est chargé par le ministre de recoller les morceaux. Et à sa tête, il y a monsieur Sidi Diallo que nous aurons en ligne dans quelques minutes. Et puis le foot en Angleterre. Nous reviendrons sur la contre-performance de dimanche pour Manchester City, tenu en échec chez lui par Liverpool, un but partout. Voilà les Citizens à 12 points de Chelsea. Oui, 12 points, c'est ça. Chelsea le leader. Le titre semble maintenant totalement hors de portée. Après l'élimination par Monaco en Ligue des Champions, la semaine a été dure pour City et pour son entraîneur Pep Guardiola. Et pendant ce temps, eh bien, Arsenal s'inclinait à l'extérieur et chutait à la 6e place de la Première Ligue. Ce qui veut dire qu'Arsenal n'est plus européen. Nouveau coup de chaud pour Arsène Wenger. Un nouveau débat à suivre dans ce Radio Foot préparé avec Guillaume Ploquin et Louis Lafargue. Marc Wilmots, 48 ans, ancien capitaine et sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique. 3 Coupes du Monde comme joueur, une comme entraîneur. Marc Wilmots, messieurs, est-il un bon choix comme nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire ? Franck Simon.
On le saura quand il les aura qualifiés pour pour les prochaines compétitions internationales, Coupe du Monde et Coupe d'Afrique des Nations, puisque ce sont les prochaines à venir. Mais bon, c'est un choix, c'est un peu un choix de rupture, dans le sens que c'est le premier Belge à débarquer sur le banc des éléphants, hein, puisque à ma connaissance, le dernier Belge que j'ai vu sur un banc ivoirien, c'était Philippe Garot en 89. Il était entraîneur de la SEC avant l'arrivée d'un certain Philippe Troussier. Vous voyez que ça nous rajeunit pas. Mais n'est-ce pas Philippe ? Mais bon, après, le Belge est à la mode. Hugo Broos a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on est d'accord. Mm-hmm. On a eu Paul Putt avec le Burkina Faso qui a été finaliste en 2013. Les sélectionneurs belges en Afrique, les entraîneurs belges en Afrique réussissent plutôt bien. On a eu Jean Tissène avec le Gabon il y a quelques temps aussi.
On a eu Guéretz aussi.
On a eu Eric Guéretz,
avec le Maroc.
Ça a beaucoup, voilà, ça a beaucoup marché. Voilà. Bah, j'ai envie de dire, attendons voir quel est son programme, hein, puisqu'on est en période électorale, attendons voir quel est le programme. On a eu le programme de M. Hamad la semaine dernière, hein, qui l'a bien déroulé. Attendons de savoir quel sera le programme de cet homme, bon, qui est un jeune technicien, comme vous le rappelez, hein, il est né en 69. Mm-hmm. C'est une année un très bon cru, je pense.
Première
info personnelle.
On va savoir pourquoi. Philippe, première impression.
Première impression, d'abord, Sidi Diallo, l'autre Sidi Diallo, c'est le président de la fédération ivoirienne, voulait absolument quelqu'un d'expérimenté, parlant français. Je dirais que, vu le nombre d'années qu'il a fait avec l'équipe de Belgique, même si c'est un jeune technicien, Franck l'a rappelé, vu le nombre d'années qu'il a fait avec l'équipe de Belgique, on peut dire qu'il a l'expérience requise, en tout cas pour une sélection. Et il a aussi, évidemment, il parle évidemment le français, Marc Wilmots. Pour autant, il devra faire ses preuves. Il n'a pas fini avec une considération fantastique de ses joueurs avec l'équipe de Belgique.
La sortie d'Euro, pas terrible.
Pas terrible. Donc, à suivre, évidemment. À suivre.
Est-ce qu'il va résider en Côte d'Ivoire ? J'ai pas d'infos par rapport à ça.
Ça fait partie du cahier des charges. Ça fait partie du cahier des charges. Donc je suppose qu'il obéira à cet aspect.
Il y a aussi le Chad. N'oublions pas au mois d'août une double confrontation contre le MENA du Niger.
Aussi dans le cahier des charges que le sélectionneur s'occupe également de l'équipe.
Ouais, je pense que c'est important d'avoir à la fois la vision du championnat, enfin des joueurs locaux, et puis des expatriés qui forment le noyau dur et fort de la sélection.
Alors on n'a pas toutes les infos encore. Hein. L'info est toute fraîche, comme on le disait. Ça sera un contrat de 2 ans, a priori. Salim, on a cette info quand même que nous donnait notre correspondant à Abidjan, Emmanuel Kofi. Marc Wilmots n'était pas candidat.
C'est
fou. Hein.
Il y a eu, d'après ce que dit la FIF, la Fédération Ivoirienne, 59 postulants.
On a choisi 60e.
Il y avait 4 dans une shortlist, d'après les infos d'Emmanuel. Et on est allé en chercher un autre et le convaincre chez lui en Belgique.
Après, le problème, c'est que nous ne connaissons pas précisément la shortlist en question, la liste qui était évoquée, en tout cas les candidatures. Philippe l'a très bien résumé il y a quelques instants. Il voulait un profil particulier avec l'expérience requise, avec une sélection qui avait déjà été coachée. Marc Wilmots faisait partie de ce profil potentiel et Wilmots était libre au final. Alors, sans postuler, vous allez me dire, mais c'est déjà arrivé dans les sélections africaines ces dernières années que des hommes sans avoir postulé ont finalement été pris. Au final, c'est une surprise sans en être une.
Je crois vous avez des exemples en tête de non-postulants?
Franck l'a sûrement, parce que ça, très récemment, il y a eu un cas, mais je ne me rappelle plus lequel exactement. Mais en tout cas, juste pour conclure là-dessus, tous ces appels d'offres où les fédérations africaines se vantent d'avoir 60, 80 candidats n'ont
plus
aucun intérêt. Parce que qu'il peut y avoir des entraîneurs de
200
de niveau,
pour le Zimbabwe, vous
de
avez
niveau
suivi
7e,
ça,
de niveau 7e division 200, qui n'ont absolument pas les compétences requises, donc ça n'a aucun intérêt de développer le chiffre. Les shortlists, ça n'a pas grand intérêt non plus. Pourquoi? Pour exciter les médias pendant quelques semaines, etc. Et souvent pour choisir finalement un quelqu'un qui est en dehors de la shortlist. Je crois qu'on doit revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, comme font la plupart des fédérations. On garde un minimum de secret. Et puis au dernier moment, on donne le Marc Wilmots. Et puis voilà, très bien.
Franck?
Marc Wilmots qui arrive sur le banc des éléphants, on va avoir quand même un chantier assez considérable. C'est une sélection qui est orpheline de Bakayoko, qui a choisi Timoué, qui a choisi l'équipe de France. Une équipe qui a perdu son titre récemment à la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe où il y a quand même des cas importants à gérer, des caractères très très forts. J'étais à Abidjan juste après la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville. Et les Ivoiriens, l'Ivoirien de la rue, ce qu'il veut, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui sera fort, qui sera charismatique et qui saura justement faire plier les joueurs ivoiriens. Les qualités des joueurs ivoiriens sont pas en cause. En revanche, il y a des problèmes de comportement. Il y en a eu encore pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations.
C'est ce que disait Michel Dussuyer.
C'est ce qu'a dit Michel et ce qu'il a déploré amèrement. Donc maintenant, c'est à Wilmots d'hériter de ce chantier-là et puis d'ouvrir encore plus l'équipe nationale à des jeunes. On attend vraiment que les jeunes prennent le pouvoir dans cette équipe.
Salim. Et donc, ça fait partie des interrogations quand on a vu ce qu'a fait Wilmots avec l'équipe de Belgique, notamment lors du dernier Euro, où il n'a pas forcément réussi, c'est le terme que vous disiez, à faire plier entre guillemets certains joueurs. En tout cas, les joueurs ne sont pas forcément allés dans son sens avec cette élimination précoce dans cette compétition. Donc Wilmots n'a pas réussi avec la Belgique. Ce n'est pas,
c'est pas un indicateur
qui va ne pas réussir à le faire évidemment avec la Côte d'Ivoire. Mais bon, forcément, il sera surveillé à ce niveau-là. Il faudra surtout être patient parce que il arrive officiellement ce mercredi. Premier match de la Côte d'Ivoire, c'est dès ce jeudi face à la Russie. On va évidemment être patient et ne pas.
Il sera peut-être même pas sur le banc.
Ça sera Camara.
Camara, logiquement. Ouais.
Alors, une chose.
En revanche, lundi. Oui. Lundi contre le Sénégal, on peut imaginer qu'il sera présent à Charletti, à Paris.
Marc Wilmots, expérience africaine, néant.
Oui.
Problème ou pas?
Oui.
Toujours.
Franck.
Oui. Toujours, oui.
Non, je laisse Philippe.
C'est effectivement toujours un handicap. Maintenant, tous les sélectionneurs d'importance en Afrique ont commencé un jour.
C'est ça.
Donc, on peut très bien admettre la possibilité de commencer. Je trouve qu'il ne commence pas dans les plus mauvaises conditions. Il commence avec 4 points en 2 matchs en qualification pour la Coupe du Monde. Il a juste un match à jouer en juin. Après, c'est en septembre. Donc, je pense que par rapport au choix de Sven Goran Eriksson, par exemple, qui m'était apparu à l'époque complètement décalé, complètement exotique,
limite scandaleux.
La Coupe du Monde n'avait aucun sens. Autant là, on peut dire qu'il arrive dans des conditions où ça va, il va avoir un peu de temps pour travailler et s'habituer à l'Afrique, évidemment, parce que c'est un élément essentiel.
Il a l'air d'avoir du caractère.
Ça va nous donner le sacré débat avec le président Augustin Sidi Diallo, qui lui aussi a beaucoup de caractère. Faut voir un petit peu comment ça va se passer entre les deux, parce que la clé, elle est aussi là dans la réussite d'un sélectionneur sur le banc des éléphants. C'est savoir aussi protéger son environnement, l'environnement de l'équipe nationale, ne pas laisser, cet élément intrusif que peuvent être des dirigeants qui aiment bien parfois s'immiscer dans les choix des joueurs, etc. On le sait bien, Philippe, on sait comment ça se passe. C'était pas évident pour Michel Dussuyer. Ça ne sera pas pour Marc Wilmots. Il va falloir qu'il s'adapte très vite à ça.
Voilà, donc Marc Wilmots, ce qu'on pouvait dire en premier élément sur son arrivée à la tête des éléphants, évidemment. Notre objectif, et l'invitation est d'ailleurs lancée officiellement sur les ondes de RFI maintenant, c'est d'avoir Marc Wilmots avec nous pour nous expliquer ce qu'il compte faire avec l'une des plus prestigieuses sélections du foot africain. La crise du foot malien. Le gouvernement malien a décidé, vous l'avez suivi il y a 2 semaines, de dissoudre la fédération. Un épisode majeur dans une crise au long cours. Ce gouvernement a installé un comité provisoire pour tenter de réconcilier cette famille qui est très très divisée avec les clubs, avec les ligues. Le problème, c'est que quand un gouvernement se mêle de ses affaires de football, eh bien la FIFA n'aime pas ça du tout.
Elle dégaine l'article 14.
Et elle a sorti les sanctions. Effectivement, c'est ce qui s'est passé encore avec le Mali pour cette ingérence politique. Le Mali a été suspendu par la FIFA de toute compétition internationale. Aujourd'hui, la situation semble bloquée. Nous avons en ligne l'homme qui dirige ce comité provisoire. Il s'appelle Sidi Diallo, banquier de profession. Bonjour, monsieur Diallo.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans Radio Foot. Alors vous êtes donc la tête de le dirigeant de ce comité qui est nommé par le ministre. Un comité. Alors on peut peut-être commencer par là, dont la légitimité est contestée par l'équipe fédérale qui a été dissoute. C'est bien ça?
Tout à fait. C'est bien ça.
L'équipe.
Moi je vous remercie. Oui. Ouais, pardon. Allez-y.
Non, je vous écoute. L'équipe dirigée par Boubacar Babadiara, hein, qui était le président de cette fédération dissoute.
Tout à fait. Moi, permettez-moi de remercier les auditeurs de RFI. Et moi, je remercie RFI pour cette opportunité qu'elle nous offre aujourd'hui en parlant de cette crise qui n'a que trop duré. La crise dure aujourd'hui depuis plus de 3 ans. Crise autour de laquelle l'ensemble du peuple malien s'est mobilisé. Crise qui a résisté à toutes les médiations sur le plan national. Crise qui a également résisté même à des décisions de justice. Le gouvernement était obligé face à cette situation de prendre toutes ses responsabilités en sonnant la fin de la récréation pour sauver le football malien.
Comment comptez-vous faire pour démêler, Monsieur Sidi Diallo, cette situation qui semble inextricable? Est-ce que aujourd'hui les conditions sont réunies pour entamer un dialogue déjà avec le camp adverse incarné par Boubacar Babadiara? Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous proposez de discuter avec le camp adverse?
Mais comme vous l'avez si bien dit, nous sommes là pour racoler les morceaux. C'est vrai que c'est une famille qui est très 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 divisée. Et là, depuis qu'on a reçu notre feuille de route du ministre des Sports, représentant officiel du gouvernement du Mali, feuille de route qui s'articule autour de 4 missions, à savoir la réunification de la grande famille de football, effectivement très 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 divisée. Tout passera par ça, avec à la clé l'élection d'un nouveau bureau reconnu de tous, transparent, capable de faire face au devenir du football malien. Il y a la normalisation également avec la reprise du championnat et la reprise également des négociations aujourd'hui avec les instances internationales, notamment la CAF, la FIFA. Il y a la professionnalisation du football qui, c'est vrai, sera fait sur le long terme. Mais il y a également l'audit administratif et financier. Mais d'ores et déjà, la commission de réunification a commencé déjà à prendre contact avec toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion de cette crise. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction que nous avons toutes les médiations aujourd'hui entamées avaient échoué. La dernière en date, c'était l'appel du président de la République à la retenue pour sauver la grande famille du football
Les conséquences sont déjà très concrètes pour le football malien. On vient de passer un week-end de Coupe d'Afrique de clubs. Il y avait deux clubs qui étaient engagés, le 11 Créateur et le Djoliba, qui, suite à la suspension décrétée par la FIFA, n'ont pas pu jouer leur match et sont donc éliminés de cette compétition. Donc, il y a vraiment urgence pour le foot malien.
Exactement. Vous savez, on s'y attendait, hein, la suspension de la FIFA. Le contraire m'aurait surpris. Aujourd'hui, c'est une suspension de principe. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, les nations africaines sont différentes des nations européennes. Aujourd'hui, en Afrique, c'est l'État qui entretient, qui nourrit le football à presque 90% aujourd'hui. L'ensemble des dépenses y afférentes sont supportés, soutenus sur le budget national. Vous conviendrez avec moi qu'un État dans ce contexte ne peut pas engager des milliards de contribuables et ne pas avoir un droit de regard. Ça, c'est un point d'achoppement. En Afrique, contrairement à l'Europe, les stades appartiennent à l'État. Et aujourd'hui, nos stades sont devenus des champs de bataille avec des risques de mort d'hommes. Aujourd'hui, l'ordre public est sur le point d'être perturbé. Donc le football est devenu au Mali une question de sécurité nationale où face à ces situations, l'État est quand même obligé de prendre toutes ses responsabilités. C'est vrai, vous l'avez dit, la FIFA doit tenir compte de ces réalités aujourd'hui. Mais nous avons ce qu'on appelle notre solution malienne. Nous avons décidé de régler définitivement ce problème, d'accepter cette suspension de la FIFA, de mettre à profit pour échanger entre les fils du pays du moment où l'irréparable a été déjà fait, c'est la suspension. Mais il faut qu'on trouve une solution malienne que nous allons exporter maintenant à l'international. Et la solution malienne, elle est connue. Le Mali, c'est franchement un État souverain. Le Mali est caractérisé par le dialogue et nous allons solutionner au maximum ce problème et si possible, transporter la solution malienne à l'extérieur.
Pour l'instant, la FIFA, Monsieur Diallo, pour l'instant, la FIFA, évidemment, reste sur sa position et demande un rétropédalage, en quelque sorte. Donc, l'annulation de la nomination de votre comité provisoire et la réinstallation de ce bureau fédéral qui a été dissous. Philippe Doucet est à mes côtés. Philippe, une observation, peut-être une question pour Monsieur Diallo.
Oui, deux très courtes questions. La première, est-ce que vous comptez vous appuyer sur la nouvelle direction de la CAF pour développer ce modèle malien, comme vous l'appelez, c'est-à-dire est-ce que effectivement on parle des vrais problèmes du football africain et jusqu'à tolérer des ingérences politiques comme vous le défendez aujourd'hui. Et la deuxième question, jusqu'où êtes-vous prêt à aller, sachant qu'il y a l'équipe des moins de 20 qui est censée disputer la CAN, il y a les qualifications pour la CAN 2019 qui commencent. Est-ce que vous êtes prêt, s'il le faut, à braver la FIFA et à être éliminé de toutes ces compétitions dans les mois qui viennent?
Vous savez, merci. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de saluer aujourd'hui l'élection du Malgache Ahmad Ahmad, qui, je pense, tiendra compte de ces aspects qui sont extrêmement importants et qui défavorisent aujourd'hui les pays africains vis-à-vis de la FIFA. Je tiens à vous dire également que le Mali est un État souverain. C'est l'État souverain du Mali qui a tenu à prendre cette décision. J'imagine très mal un État souverain revenir sur une décision qu'il a posée. Elle va quand même pas se fragiliser. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous disposons de suffisamment d'éléments aujourd'hui pour attaquer cette décision au sein de la FIFA. Les éléments que je viens de vous évoquer en font foi. Et aujourd'hui, il y a une sentence du tribunal arbitral des sports aujourd'hui qui n'a pas été appliquée, sur laquelle nous comptons revenir également. Mais comme je vous l'ai dit, le Mali, c'est un pays de consensus, de dialogue. Nous allons prévaloir d'abord le dialogue national et qui, j'espère, bien portera fruit. Sinon, nous avons des éléments de preuve palpables aujourd'hui pour faire revenir la FIFA sur sa décision. Mais franchement, moi, je pense qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour un État souverain, compte tenu de toutes ces réalités, un État qui supporte le football à plus de 90%, imaginez-vous qu'il n'a pas de droit de regard sur ses dépenses. Donc, c'est extrêmement inadmissible.
Merci, monsieur.
C'est pourquoi nous saluons très honnêtement la nomination de Ahmad Ahmad, qui, je pense bien, sera tombé pas mal de verrous. Et j'avoue qu'il y a pas mal de masques qui, nous espérons bien, tomberont. Et j'espère bien, c'est l'occasion. Nous lançons un vibrant appel au nouveau président de la CAF
On a compris, Monsieur Diallo. Malheureusement, je vais être obligé de vous interrompre parce que la première partie de ce Radio Foot se termine. Et on poursuit cette émission dans quelques instants avec l'Angleterre.
Parlez-vous Paris. Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Radio Foot, la deuxième partie, toujours en compagnie de Philippe Doucet, Salim Bongali et Franck Simon, avec aux manettes Guillaume Plequin et également Louis Lafargue. On passe, comme promis, au football anglais avec la semaine difficile, très difficile, vécue par Manchester City. Sorti de la Ligue des Champions par l'AS Monaco, le club a vu sans doute s'évanouir ses derniers espoirs d'être champion d'Angleterre avec ce match nul concédé Salim ce week-end. Dimanche précisément sur son terrain face à Liverpool, un but partout, derniers espoirs, bon, vous faisiez une moue comme si finalement ils étaient vraiment très très minces ces espoirs.
Oui, plus que ça, oui, effectivement. avant cette rencontre, on pensait davantage à un City qui pouvait espérer gratter et solidifier, on va dire, sa deuxième place plutôt, ou obtenir en tout cas cette deuxième place. La première paraît tellement loin aujourd'hui pour toutes les équipes. Chelsea paraît tellement au-dessus avec une nouvelle victoire ce week-end, pas évidente, mais victoire tout de même pour les Blues sur la pelouse de Stoke. C'est vrai que City, comme les autres, donc paraissent tellement loin que oui, City avait un objectif, c'était consolider cette deuxième place. City, par séquence, a donné l'impression de pouvoir la consolider, notamment après l'égalisation de Sergio Aguero. Il y a eu énormément d'opportunités, énormément d'espace des deux côtés. D'ailleurs, ça a donné un match très spectaculaire.
Grand match.
Mais malheureusement, comme souvent, on va dire, c'est les défenses ont laissé faire les attaques, mais c'est les attaques qui ont été assez décevantes d'ailleurs, que ce soit du côté de Liverpool avec des ratés assez impressionnants, et du côté de City avec un Aguero qui a été certes buteur mais qui a beaucoup raté aussi. Conclusion d'une semaine, oui, délicate, c'était le mot que vous utilisiez pour Manchester City.
Grand match, vous disiez, Philippe, ouais. Ça fait partie des matchs qui marquent une saison.
Moi je trouve, parce que en tant que spectateur, enfin j'étais au match et j'ai pris énormément de plaisir à le commenter et à le voir. C'était vraiment un match très très vivant. Vous savez, vous avez vu Guardiola dans l'interview dire qu'il avait aimé, enfin qu'il avait.
On va l'écouter d'ailleurs.
Ah bon.
Vous voulez qu'on l'écoute maintenant?
Non, oui, parce que.
C'est possible.
Ça me rappelle. Je vais vous dire à qui ça m'a fait penser.
Allez, Pep Guardiola.
Nous avons vécu deux jours difficiles après notre défaite en Ligue des Champions. Nous étions tristes. C'est pourquoi après ce match nul, je suis si heureux. C'est l'un des jours où je suis le plus fier d'être coach pour les gars. Plus que jamais, je veux aider ce club, si je peux. Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Je suis prêt à aider le club s'ils veulent rester avec moi au cours des prochaines années pour affronter les prochaines étapes.
Voilà, c'est une réaction qui peut paraître un peu décalée par rapport au résultat.
Oui, complètement. Mais moi, je trouve que dans cette époque où effectivement les critères, c'est alors le trophée, le titre, le machin, et puis si on gagne pas, ben on est forcément nul. Moi, j'ai un grand souvenir d'un moment de Johan Cruyff, peut-être 2-3 mois avant qu'il soit viré et qu'il parte de Barcelone. Il perd à domicile au Camp Nou contre l'Atlético de Pantic à l'époque, et à l'entraîneur Pantic et le joueur Pantic. Atlético va donc être champion devant le Barça qui est largué, etc. C'est terminé. Et je vais pour interviewer Johan Cruyff. Et à ce moment-là, il y a un ami de Johan Cruyff qui arrive pour lui serrer la main d'une manière un peu amicale, comme pour le consoler en quelque sorte. Et Johan Cruyff se tourne vers lui avec un visage empli de sourire et lui dit « Quel match !» Et moi, ça m'a marqué. Parce que ce que Guardiola vante de ce match de dimanche, c'est ça. C'est le bonheur d'être sur le banc et de vivre un super match. Il n'y a pas le résultat qu'il faut. Johan Cruyff avait vécu la même chose, puis il n'y avait pas le résultat qu'il faut du tout, même pour Johan Cruyff. Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est des entraîneurs qui discutent le comment.
Oui.
Et le comment, on arrive à gagner à l'arrivée. On est bien d'accord qu'in fine, il faudra gagner. Mais il travaille sur le comment. Et je pense qu'il y avait plein de raisons d'être satisfait de la performance du match.
Au risque que cette lecture-là ne colle pas vraiment avec la perception de quelques supporters.
Ah, les supporters, ils veulent gagner. Ils veulent gagner.
Le problème, c'est que vous avez un contexte aussi. Alors, encore une fois, et je prolonge le propos de Philippe, le match était, que ce soit dans le stade ou en tant que téléspectateur, remarquable à regarder. Mais à côté de ça, City vient donc de se faire éliminer de la Ligue des Champions, à des concurrents, hein, pour cette deuxième, troisième, quatrième place en championnat d'Angleterre. Et sur votre pelouse, face à un concurrent, justement, vous concédez beaucoup d'opportunités, vous n'arrivez pas à gagner. Alors oui, du plaisir, c'est un fait. Mais au final, le résultat, in fine, n'est pas la victoire. Donc ça reste quand même gênant aussi.
Mais il reste 10 matchs et les 10
enfin,
matchs
les deux prochains Philippe sont quand
oui,
même sont,
mais oui
t'as,
mais
t'as,
ils seront nourris
à Arsenal puis à Chelsea donc
c'est, ah non mais c'est très compliqué
ça
mais
va être très compliqué hein début avril hein en mais, 3 jours
et puis fin avril la réception United.
Ouais. Non mais est-ce en 3 jours tu peux te faire larguer ou au contraire te bien te repositionner quoi.
On est bien d'accord et c'est là qu'on en jugera mais je pense que quand on retrouve un peu son football, parce qu'à Monaco,
c'est vrai.
Il y a eu quand même quelques moments très délicats, où il y a eu une première période notamment qui ne ressemblait pas du tout à du Guardiola.
Puis défensivement, c'était étonnant, parce que c'est une équipe qui avait peu concédé en fait ces derniers temps de buts. Ils en ont concédé beaucoup dans cette double opposition contre
bah,
l'AS Monaco.
Quand même, ouais.
Ouais, c'est
non c'est
mais
pas mal.
Non mais en championnat, si tu te souviens bien,
oui,
les matchs d'avant,
ils
je crois qu'ils étaient
buts,
voilà, ils en ont pris peut-être un maximum dans les matchs entre les deux. Donc il y a aussi des choses à corriger de ce point de vue-là. Moi, c'est vrai que voilà, je regarde aussi l'aspect défensif. C'est un tout le foot, bien sûr, mais prendre déjà moins de buts, ça commence par là, quoi.
Est-ce qu'Aguero est en question dans cette cette semaine en général, d'ailleurs?
Le truc, c'est que la presse, alors pas que lui d'ailleurs, a beaucoup critiqué l'ensemble de l'équipe de Manchester City à l'issue de l'élimination face à l'AS Monaco. Sergio Aguero a été visé. Alors lui, qui avait été un petit peu protégé quelques semaines auparavant, notamment après le match aller où il avait recommencé à marquer, il avait une phase où il marquait de très nombreux buts également en championnat. Et puis là, il y a cette fameuse phase où c'est beaucoup plus délicat pour lui. Alors, on voit les critiques qui sont évoquées à son encontre. On attend même, c'était juste après le match face à Liverpool, le lendemain donc, où on voyait des mots « Quand est-ce que tu vas revenir, Jesus ?» Gabriel Jesus, puisque lui, lorsqu'il a démarré, ça avait plutôt bien fonctionné.
À mon avis, cette saison, ça va être très juste.
Ça va être très juste.
Peut-être
mais...
en mai, mais...
pour
maximum.
La toute fin de saison ou effectivement la saison prochaine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui
peut-être
on a l'impression que aujourd'hui Aguero est quasiment pour beaucoup en tout cas un numéro 2, on attend un numéro 1 pour passer devant lui.
Franck,
ouais, c'est quand même inquiétant.
C'est
en fait.
Terrible de dire ça quand c'est Sergio Aguero,
c'est inquiétant aujourd'hui qu'en fait un joueur en l'occurrence un joueur offensif, un joueur exceptionnel, cristallise toutes les rancœurs, toutes les critiques, parce qu'en fait, en vérité, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Si on doit l'incriminer, il n'y a pas que lui, hein. Il y a une longue liste de joueurs de City à incriminer. On a évoqué le cas de l'entraîneur, mais il n'est pas seul, hein, dans cette histoire. Sauf que voilà, c'est le joueur emblème, c'est le joueur, comment on appelle ça dans le sport américain, c'est le joueur, pas
non,
le joueur.
Non, mais c'est bien emblème. En français, c'est bien.
C'est ça, c'est emblème. C'est tout à fait, ouais, effectivement, j'allais faire un
je sentais, ouais, voilà. L'anglicisme,
donc,
veut dire.
C'est quand même, moi, je trouve ça quand même super dommage, voilà, de tout mettre sur ce type. Alors qu'en vérité, comme je le disais il y a 2-3 minutes, c'est la défense qui était aussi en jeu. Peut-être qu'on n'aurait rien dit s'ils n'avaient pas encaissé ce fameux but. Hein.
C'est vrai, vous avez raison. C'était The Guardian qui faisait un article il y a quelques jours à l'issue de l'élimination en Ligue des Champions face à Monaco en expliquant que Guardiola ne voulait plus d'un certain nombre de joueurs dans cette équipe, en l'occurrence 18 joueurs. Alors 18, c'est pas beaucoup, évidemment. On comptabilisait également les joueurs qui étaient prêtés par l'équipe de City. On peut penser à Joao.
Alors 18, c'est pas beaucoup. sur 50 joueurs, c'est pas énorme. Il en garde 32, c'est énorme.
Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a donc les joueurs prêtés dont Guardiola ne veut plus. Certains joueurs qui sont en fin de contrat, on peut penser à Bakary Sagna, Gaël Clichy par exemple, qui font partie de ces joueurs en fin de contrat. Gaël Clichy notamment très en difficulté ces dernières semaines.
Il veut créer une équipe, comme on dit, à sa botte, à sa main, quoi.
Et à son image.
À son image.
Exactement.
Il va se débarrasser des garçons qui sont les héritages de ses prédécesseurs. Ça se comprend. Ils le font tous. Pourquoi pas lui?
Et mettre des latéraux qu'il aime. Comme il les a aimés au Bayern ou au Barça, en fait, des latéraux extrêmement offensifs.
Vous avez des noms à nous donner?
Alaba. Enfin, non. Je prends l'exemple, un type. Des Alaba, des Dani Alves. Ce genre de joueurs
voilà
qui ne sont pas Sagna.
Voilà des noms.
Ou, Clichy.
Question volontairement provocatrice. Est-ce que on peut déjà dresser un constat d'échec de Guardiola pour sa première saison à City?
En tout cas, on peut dire que, et on s'en doutait d'ailleurs, que ça n'est pas facile pour Guardiola. On s'en doutait parce que l'équipe de Manchester City l'année dernière arrivait déjà, on la sentait déjà un peu en fin de cycle. Elle s'est certes un peu renforcée, mais elle ressemble quand même beaucoup à l'équipe de l'année dernière malgré tout. Donc qu'elle ait des difficultés, on n'en est pas si surpris que ça. Et en plus, Guardiola découvre un championnat où il n'est pas assuré d'être premier ou deuxième. Quand t'es au Bayern ou à Barça, c'est vrai que t'es premier ou deuxième. Et t'es en demi-finale de la Ligue des Champions, systématiquement, ce qu'il a toujours fait.
Il reste 10 journées, il a encore la place pour
il peut être encore deuxième,
chercher cette deuxième place.
Il peut encore être deuxième, mais
ils sont
c'est
à deux
vrai.
À 2 points de Tottenham. Hein,
c'est vrai qu'il a découvert une équipe de Manchester City qui n'est pas du niveau ni du Bayern ni du Barça, et un championnat d'Angleterre où par contre le niveau est beaucoup plus homogène. Son équipe est moins forte que ses prédécesseuses et le niveau est plus homogène, et du coup on perd beaucoup de points et c'est plus compliqué. Il peut moins facilement mettre en place un football où de possession, où on domine largement et où on finit inéluctablement par gagner. C'est pas, Guardiola ne peut plus se prémunir de cette manière là
Franck, vous êtes d'accord?
Absolument. Puis il possède l'une des 5 meilleures attaques de Première Ligue, mais regardez la défense, 30 buts encaissés, c'est trop, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop de buts encaissés, c'est pas une équipe qui nous avait habitué ces dernières saisons à encaisser autant. Cette saison, ils en encaissent beaucoup trop, ça les plombe, ça les a plombés sur le plan européen, on l'a bien vu. On a vu les largesses dont ils ont fait preuve, largesses coupables. Hein. Après, le talent de Falcao y était aussi un peu pour beaucoup, le talent de Mbappé aussi contre Monaco, mais... C'est trop en Première Ligue, même si c'est un championnat dont on connaît la générosité sur le plan offensif. S'il veut que son équipe soit très performante, et c'est vrai que, comme Salim le rappelait à l'instant, il faut aussi faire de bonnes acquisitions. Ça passera par des bons défenseurs, peut-être pas des insulaires. Et beaucoup d'argent, forcément.
Alors pour l'argent, on s'inquiète pas forcément avec Manchester City. On évoquait les défenseurs. Il y a un nom qui revient régulièrement.
Ah, ben voilà. Vous y venez.
Dans la défense centrale. Alors, le problème, c'est est-ce un grand nom? Pas forcément. Emerick Laporte.
Ah, c'est bien.
Qui
c'est bien,
était déjà apprécié lorsque Pep Guardiola était en Espagne. Mmh. Ensuite, il est parti au Bayern et on n'en a plus forcément parlé en Allemagne. Mais Emerick Laporte fait partie de ces joueurs qui sont donc appréciés par Pep Guardiola. On sait que Pep Guardiola veut renforcer sa défense puisque des joueurs comme Kompany vont partir.
Ou Mazembe.
D'autres comme Otamendi vont peut-être finalement ne pas être gardés. Kolarov, sans doute pas non plus. Donc, on a besoin de renforcer la défense centrale. Ça peut être l'une des pistes. Encore une fois, les latéraux, on n'a pas de nom, mais aujourd'hui...
Stones Laporte, ça fait jeune. Hein.
Ça fait, c'est un peu
le et Everton est bien content de s'être débarrassé de Stone. Pour une sacrée enveloppe.
Franck l'a malheureusement très bien dit, avant de penser à l'attaque, il faut effectivement solidifier cette défense. Aujourd'hui, vous avez la défense, vous avez le gardien aussi. Caballero ne va pas être gardé. Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui un gardien comme Claudio Bravo qui a été acheté. Claudio Bravo, vous l'avez, passez-moi le terme peu positif, vous l'avez tué en le mettant sur le banc. Qu'allez-vous faire de lui désormais? Est-ce que vous allez remettre numéro 1 en sachant que pendant 6 mois il était numéro 2, ou acheter un autre gardien? Ça fera aussi partie des réflexions.
Alors vous parliez des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Il y a Yaya Touré évidemment, et les nouvelles déclarations de son inarrêtable agent Dimitri Seluk,
qui est celui, je crois, d'Aristide Bancé d'ailleurs.
Ah bon, d'accord, ok. Donc Yaya Touré, il arrive en fin de contrat et visiblement son entourage attendait des nouvelles avant le 15 mars, et l'agent Dimitri Seluk explique que les nouvelles ne sont pas venues et que donc du coup il est fort possible que Yaya Touré prenne la direction d'un autre club, voire d'un autre continent. Comment ça va se terminer cette histoire?
Les États-Unis ou la Chine? La Chine, comme
City pour vous, c'est terminé?
Ça paraît
Déjà, c'est surprenant qu'il y ait au final eu cette saison. Rappelez-vous, on en parlait déjà la saison dernière, lorsqu'on savait que Pep Guardiola arrivait à Manchester City. On disait, Guardiola et Touré, ça n'a pas fonctionné, comme ça n'avait pas fonctionné lorsque tous deux étaient à l'époque au FC Barcelone. Au final, la saison avait très mal démarré. Touré n'était même pas dans la liste des joueurs qui pouvaient jouer la Ligue des Champions. Touré a tenu.
Il a beaucoup travaillé.
Pep Guardiola a aussi été pragmatique, parce qu'il avait des soucis aussi au poste de milieu de terrain. Et au final, ça a plutôt matché. Malheureusement, la deuxième partie de saison est quand même aussi, soyons honnêtes, beaucoup plus délicate pour l'Ivoirien. Il est en fin de contrat, peut-être que c'est le bon moment pour lui de partir.
Il a l'Asie, il a la Chine, il peut avoir la MLS, il peut imiter Didier Drogba. Il a des possibilités, je pense qu'elles sont...
Je pense qu'il a encore espoirs de continuer en Europe. Oui, mais
où ça, mais... en Allemagne, en Espagne?
Oui, après c'est évidemment la qualité.
Il ira pas en dessous.
C'est la qualité du challenge qui effectivement fera qu'il restera en Europe ou pas.
Rejoindre son frère.
Manchester United.
Ce serait drôle.
Mais vous avez beaucoup d'humour, Christophe.
Non, mais
je dis ça parce que je l'ai lu. Autant entre Liverpool et Manchester United, c'est pas possible. Autant entre les deux Manchester, je pense que c'est possible.
Ah, totalement. Carlos Tevez est l'un des exemples. Après, United a priori suffisamment de joueurs à ce poste-là. Enfin, dans cette zone-là, Bastian Schweinsteiger aujourd'hui a annoncé son départ. Il quitte Manchester United, lui qui jouait tellement peu pour la MLS, la Major League Soccer. Donc, dans cette région-là, dans cette zone du terrain, il y a suffisamment à United, a priori.
Allez, on laisse City tranquille pour un petit moment. Arsenal,
oh là là.
Ça fait mal parce que Arsenal a été battu et dépassé justement au classement par Manchester United ce week-end. Et voilà donc Arsenal à une sixième place qui les met hors de la zone Europe.
Faut rappeler une chose, donc on est à la 29e journée.
Encore qualifié en Ligue Europa, mais
on a joué 29 matchs.
Ouais, même si Arsenal,
certains clubs ont joué
27 matchs en l'occurrence. Il y a deux matchs en moins pour Arsenal.
Comme Man U.
Liverpool a 5 points d'avance.
Symboliquement.
Mais symboliquement, la symbolique est forte. D'ailleurs, depuis que Arsène Wenger est à la tête de cette équipe, jamais après 29 journées, alors il y avait toujours des matchs en retard au final durant toutes ces saisons, jamais il n'a été 6e après 29 journées. C'est une première dans sa carrière. C'est une symbolique, mais symbolique forte évidemment. 4 défaites en 5 matchs. Il n'a jamais vécu ça également en tant que coach de Première Ligue et coach d'Arsenal. Voilà, les symboliques sont là. Alors, il faut rappeler d'ailleurs qu'avant cette période, au final, Arsenal qui était critiqué, les résultats étaient quasi similaires, je dis bien quasi similaires, aux dernières saisons. C'est vraiment la période qui a fait que vous avez ces 4 défaites en championnat, plus les 2 humiliations face au Bayern Munich. Tout s'accumulé fait qu'aujourd'hui, on n'a qu'une envie, et les supporters d'Arsenal n'ont qu'une envie, avec ces fameuses pancartes, les Wenger out. On ne veut plus d'Arsène Wenger, même si de plus en plus, on suppose qu'Arsène Wenger va finalement prolonger.
Alors on a vu le stade survolé par 2 petits avions. Hein,
ça nous a rappelé les vacances à la plage, t'as vu quand il y avait ces petits. Ça m'a fait penser à
le
ça.
Le cirque passe ce soir.
C'est
un peu le cirque d'ailleurs.
C'est un peu le cirque
en l'occurrence.
Là, ouais.
C'était ou alors allons au Macumba ce soir. Il y avait deux avions qui traînaient 2 banderoles, chacun une banderole avec 2 messages opposés.
D'ailleurs les supporters d'Arsenal ont supposé que c'était le club qui avait envoyé un deuxième avion un quart d'heure plus tard pour contrecarrer le problème. Ça me paraît un peu compliqué à organiser, mais pourquoi pas.
Chance incroyable, le deuxième avion, tombe pile poil au moment de l'égalisation d'Arsenal. C'est quand même le moment le plus invraisemblable.
Et vous croyez que les gens ont levé la tête?
Non, mais les caméras, en tout cas, l'ont vraiment montré. C'est vrai que c'est assez étonnant. D'ailleurs, ça coûte 1000 euros, pour louer un avion. Donc, il y a des supporters après qui ont loué 1000 euros un avion pour mettre cette banderole. La première banderole, on rappelle, no contract, Wenger out. Et la deuxième, c'était un message d'amour, en tout cas pour Wenger, pour qu'il reste. Donc, c'était assez surprenant d'avoir ces deux banderoles.
Et quand dit l'intéressé, on l'écoute.
Je ne me soucie pas de mon avenir aujourd'hui. Nous sommes dans une spirale négative. C'est quelque chose que nous n'avions jamais connu en 20 ans. Nous perdons match après match. Selon moi, c'est bien plus important que mon avenir. Mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que je ferai dans le futur. Vous le saurez très vite.
Voilà, il sait, Salim.
Et oui,
pas nous.
Mais effectivement, ça évolue. Il y a quelques semaines,
Tony Pulis croit savoir aussi.
Mais... C'est ça, Tony Pulis. apparemment, enfin, il expliquait en tout cas après match que Wenger lui a dit qu'il restait. Bon, c'est Tony Pulis qui le dit. On ne sait pas si c'est acté, s'il faisait du cinéma en le disant. On n'en sait rien. Mais en tout cas, Arsène Wenger, effectivement, sa position évolue.
C'était il y a peut-être quelques petites phrases comme ça à la fin du match à l'année prochaine.
Totalement,
ou ça,
exactement. Mais Arsène Wenger, sa position évolue puisque il y a quelques semaines, c'était je serai ici ou ailleurs. Le ailleurs était déjà un mot nouveau chez lui, puisque c'était toujours je suis ici, pas ailleurs. Mm-hmm. Donc là, le fait qu'il évoque le fait qu'il ait pris sa décision, là encore, ça démontre son évolution, en tout cas dans sa réflexion.
Franck ?
Et West Brom qui a peut-être le sort d'Arsenal entre ses mains, puisque West Brom défie à la prochaine journée Man United. Les deux équipes se tiennent au même nombre il y a Man U qui est devant avec 2 points d'avance sur Arsenal, même nombre de matchs. Et ensuite, quand on regarde, faut descendre jusqu'à la 10e place et Southampton pour trouver une équipe avec autant de matchs. Donc, en fait, tout va se jouer dans ce top 6 de la Première Ligue. On va mettre de côté Chelsea. On se dit qu'Arsenal, voilà, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, pour eux, c'est là que ça va se jouer, comme pour City.
Surtout qu'il y a la Cup aussi, et voilà. Un des rares derniers objectifs peut-être d'Arsène Wenger, ce sera d'essayer d'aller chercher la cup, d'aller
chercher
la cup.
Mais on l'a senti quand même super marqué, fatigué, quoi. On le voit.
Il est atteint, fatigué, les joues creusées.
Exact.
Il est miné par cette
situation
parce que c'est un garçon qui, quand il perd un match, il prend 10 ans d'un coup. Il est comme ça physiquement. Pour autant, je crois que, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, je pense que la décision, elle est pas si prise que ça, pas si décidée que ça. Et je pense qu'il n'aurait aucun intérêt. Alors, je sais que les médias sont très, très pressés, les supporters très pressés également. Ils sont peut-être pressés aussi d'enterrer leur équipe avec Wenger. Quel est l'intérêt pour les supporters de l'Arsenal? Je suis un peu surpris. Moi, je trouve que ce que Wenger doit surtout faire, c'est ne pas annoncer. On sait très bien, François Hollande pourrait en parler, on sait très bien que quand on annonce trop tôt qu'on va partir, la situation très délicate que ça annonce, je pense qu'il aurait tout intérêt à maintenir tout le monde en tension, quitte à énerver tout le monde, peut-être les supporters, mais on s'en fiche des supporters. Ce qu'il faut, c'est l'avenir du club, et Wenger, il pensera à ça d'abord.
Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a démenti aujourd'hui chez nos confrères de Bein la piste PSG.
C'était nos confrères du Sun qui avaient ainsi évoqué cette information qui paraissait totalement aberrante, et effectivement, Arsène Wenger l'a totalement démenti. En tout cas, dans cette période où tout va mal, il y a des choses qui lui permettent, qui font que ça va encore plus mal, puisque dans ce match...
Je croyais qu'il y avait quelque chose de positif.
Non, malheureusement, non. Petr Cech qui s'est blessé dans cette rencontre, remplacé par David Ospina, et puis Alexis Sanchez qui s'est blessé dans ce match. En fait, il se blesse en première période. À la mi-temps, il en informe Arsène Wenger. Wenger veut le sortir, lui dit non, je veux tenir, je veux rester. Et il se blesse, et il aggrave sa blessure. Dans les prochaines heures, la gravité de la blessure, il serait touché au ligament de la cheville. Ligament de la cheville, ça peut potentiellement, en fonction des gravités, vous dire fin de saison. Quand vous avez Alexis Sanchez, votre meilleur buteur qui n'est pas là, ça peut forcément rendre les choses encore plus difficiles.
C'est peut-être pour ça, effectivement, que Wenger accentuait son propos pendant la conférence de presse d'après-match, où il disait on est vraiment dans une mauvaise période. Parce qu'il n'y avait pas que le fait qu'ils perdent tous les matchs, mais il y a effectivement une conjonction d'événements très contraires, très négatif, et aujourd'hui effectivement ça peut les plomber pour la dernière partie, dernier tiers de saison. N'oublions pas, il leur reste quand même 11 matchs.
Et prochain rendez-vous, 2 avril, Arsenal, Manchester City.
C'est ça.
Alors, il nous reste quelques minutes dans ce Radio Foot. J'aurais qu'on parle de Leicester, qui poursuit.
Du champion d'Angleterre.
Oui, du champion d'Angleterre, messieurs dames.
Ça va mieux, en tout cas.
Et dernier.
Plus pour longtemps.
Et dernier club anglais en Ligue
des Champions.
C'est ça. Beaucoup mieux se confirme avec cette victoire 3-2 sur la pelouse de West Ham. C'est la confirmation aussi que le problème, c'était Ranieri.
3 matchs, 3 victoires avec Craig Shakespeare. On n'a jamais vu ça pour un entraîneur de Leicester. Pour ces 3 premiers matchs, 3 victoires dans l'histoire de Leicester. Craig Shakespeare le disait lui-même en conférence de presse, notamment à l'issue du premier match, il n'avait pas forcément changé.
To be or not to be, non?
Non, il n'a pas dit ça, mais il a surtout expliqué qu'il n'avait pas forcément changé beaucoup de choses. Il avait tenté de changer le discours, essayer de remobiliser les troupes, mais on voyait d'ailleurs la première composition d'équipe de Shakespeare était, à la différence, Ndidi Kanté, était la même que celle de Ranieri la saison dernière. Donc c'était les mêmes joueurs, et tout d'un coup qui jouent différemment avec des cadre. Schmeichel qui a été impérial face à West Ham, Mahrez qui marque, Vardy qui marque, Hoot qui se remet à marquer. Enfin,
la
tout
peur,
d'un coup,
il y a la
changé.
Peur, mais il y a la peur de plonger forcément. Et puis bon, tout ce qu'on a pu lire aussi sur le rôle des joueurs, le rôle négatif qu'ils ont tenu, parce que leur entraîneur, ils étaient bien contents de faire la fête avec lui, de partir à l'intersaison aux États-Unis avec lui, mais ils ne l'ont pas soutenu jusqu'au bout. Alors certains maintenant versent des larmes de crocodile. Et comme par hasard, là, on le dit, Shakespeare est là, et tout va mieux. Non, faut arrêter. On a joué un petit peu au football. On sait comment ça se passe. Ils l'ont lâché. Et puis là, ils sentent bien que en dessous, il n'y a plus rien. Hein, c'est le grand vide. Donc, c'est pas le moment, parce que tu peux perdre aussi des opportunités de partir. Il y en a beaucoup, vous avez cité, qui ont la possibilité de partir dans quelques semaines, sous forme de transfert. Mm-hmm. Et il vaut mieux que ça se fasse quand le club est en première ligue. Donc voilà. Moi, je pense que c'est tant mieux pour ce club. Et puis, c'est bien qu'il y ait cette petite aventure qui se prolonge sur le plan européen, parce que je pense que ça leur met un petit coup de boost.
Alors, parmi les joueurs qui ont pas forcément joué la carte Ranieri, bien au contraire, Jamie Vardy, vous avez lu ces histoires de menaces de mort. Il explique que lui et sa famille font l'objet quotidiennement de menaces de mort de la part de supporters depuis le départ de Ranieri.
Non, j'ai pas lu ça. Ça me passionne pas.
Non, malheureusement, ça fait partie de cette passion qui, malheureusement, c'est passion à l'extrême.
Presque morbide.
Pour certaines personnes, malheureusement, c'est vrai que que Jamie Vardy fait partie de ces joueurs qui ont reçu les menaces de mort. Alors on évoque d'ailleurs le fait que d'autres joueurs, semble-t-il, auraient effectivement aussi reçu ces menaces. Mais Jamie Vardy, il a tellement cristallisé la saison dernière avec Riyad Mahrez cette satisfaction de Leicester et ce Leicester champion qu'on en attendait beaucoup, qu'on a tellement pas vu Jamie Vardy, que tout d'un coup, en un changement de coach, le nouveau l'ancien Jamie Vardy, pardon, est redevenu celui qu'on connaissait contre le FC Séville. Alors certes, il n'a pas marqué dans cette rencontre, mais on l'a revu avec ses fameux trois poumons à courir dans tous les sens. Sur Ranieri, il ne le faisait plus. Tout d'un coup, il le refait. Alors évidemment,
il a besoin de partir, d'aller ailleurs.
On ne va pas soutenir ses supporters, loin de là, et ses menaces, mais entre guillemets, de voir le Jamie Vardy changeant, ça pose question encore une fois.
On va terminer juste par en évoquant l'une des affiches. Vous savez qu'on entre dans une période de matchs amicaux, on en parlait déjà tout à l'heure, et aussi de matchs éliminatoires. Il y a un match entre l'Angleterre et l'Allemagne qui se profile et qui va déjà être très très intéressant. Quelle importance donner à ce match?
Pardon, je vais tout de suite un petit peu tuer vos propos.
Oui.
L'équipe d'Angleterre est tellement en ce moment en phase de test continu. Jermaine Defoe, qui n'avait pas été appelé depuis 3 ans en sélection, a été rappelé. Alors certes, il marque depuis le début de la saison 14 buts avec l'équipe de Sunderland, mais ce n'est que Jermaine Defoe, donc ce n'est pas pour l'avenir au final que vous prenez un tel joueur. Michael Keane, défenseur de Burnley, a été appelé également. Jake Livermore, milieu de terrain de Hull City, a été appelé. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement peu de réservoirs en équipe d'Angleterre que vous êtes obligé d'appeler des seconds couteaux. Cette équipe d'Angleterre est encore et toujours en phase de test, encore et toujours en phase de rodage.
C'est vrai que ça peut avoir une certaine importance pour l'Angleterre, justement, parce qu'elle est en phase de rodage, etc., qu'elle a besoin de prouver des choses. Mais les matchs amicaux, aujourd'hui, honnêtement, ne signifient de moins en moins de choses. Il y a parfois un petit déclic, un joueur qui apparaît. Donc, c'est pour ça que l'Angleterre va quand même surveiller ce match-là.
On y avait cru avant l'Euro, il y avait eu Allemagne-Angleterre. L'Angleterre était allée gagner en Allemagne, 3-2. Jamie Vardy avait marqué. On s'était emballé. On a vu ce que ça a donné lors de
la suite.
Bon, donc on ne regardera pas. Non, mais je comprends. Defoe sera là pour
Sénégal,
faire la figuration.
Ça c'est
un peu plus passionnant.
On a toute la semaine pour parler de ces belles affiches qui s'annoncent. Merci messieurs, Franck Simon, Salim Bongali, Philippe Doucet. Merci à Louis Lafargue, merci à Guillaume Ploquin. On se retrouve demain pour un nouveau Radio Foot.